91 FM vous présente les talents d'aujourd'hui et de demain.
Tout de suite,
leur interview sur 91 FM.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Passion Livre, le rendez-vous découverte de nouveaux auteurs. Alors, comme toujours, je suis en compagnie d'Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour Michel.
Tu vas bien ?
Oui, et
oui,
toi ?
Oui, ben, contente de te retrouver aussi.
Moi également.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Solène Guillot, romancière et intervenante en éveil musical. Bonjour Solène.
Bonjour.
Alors Solène, on est ravis de vous avoir au micro de 91 FM. Comment en êtes-vous venue à l'écriture ?
La bonne question. je pense que j'ai toujours aimé imaginer et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire déjà petite.
Déjà petite, vous aviez commencé,
déjà
oui.
Petite, remplie de fautes d'orthographe, mais c'est pas grave, ça.
Et vous écriviez des histoires aussi,
D'accord. Ouais, déjà des petites histoires qui étaient pas souvent terminées, mais en tout cas, il y avait toujours un début.
Oui, parce que donc je rappelle, vous avez écrit une nouvelle en 2011 que vous avez rééditée en 2021, donc 10 ans après, et au moment où sortait votre premier roman.
Oui.
À ce moment-là, qui s'appelle Magali. Enfin, non, Magali, c'est la nouvelle, excusez-moi. Et le premier roman, Les Ricochets, qui est sorti en décembre 2021.
C'est ça.
Voilà. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu, Les Ricochets ?
Les Ricochets, c'est un roman contemporain, c'est une tranche de vie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'est éloigné de sa famille et qui va la retrouver. On va comprendre les raisons de cet éloignement. Donc, c'est vraiment autour des liens familiaux, des liens d'amitié. Mais en fait, j'ai remarqué que tous mes livres... finalement, c'est autour des liens familiaux, sans même m'en rendre compte. C'est au bout du 4e, 5e, je fais « Ah oui, bon, bah, c'est vraiment toujours autour de ça. »
D'accord. Et donc après, donc, La caresse qui claque, on va en parler plus en détail avec Evelyne, parce que ça a été un roman...
roman témoignage.
Témoignage, voilà, qui est issu en fait, de votre propre expérience depuis l'enfance.
Déjà, le titre de votre livre, La caresse qui claque, et c'est un titre qui interpelle parce qu'il juxtapose quand même deux idées antinomiques. On a une idée de douceur et de violence. Est-ce qu'à lui seul, on peut dire qu'il résume le livre ?
Ah oui, complètement. C'est ça.
Et de quoi parle-t-il ? Et je veux là que vous nous donniez un résumé en vos propres mots. Je ne sais pas s'il faudrait dissocier à ce moment-là l'auteur du personnage principal. Vous nous direz.
Et du coup, c'est l'histoire d'Ambre, une enfant qui grandit dans une communauté sectaire. Et du coup, on va la voir évoluer avec sa famille, de quelle manière ils se sont retrouvés enfermés là-dedans, tout en ayant une vie extérieure, mais tout étant réglé par les habitudes de cette communauté, de ce groupe. En même temps, il y a des super moments où Ambre, cet enfant et cette jeune fille, vit des moments de copinage, d'amitié avec ses amis. On a l'impression que c'est la colo, quoi. Mais en fait, non. À côté de ça, il y a toujours la violence qui est là, l'emprise d'un gourou, de deux femmes qui sont à ses côtés, et puis l'effet groupe qui malheureusement maintient l'emprise.
Oui, parce que dans la violence, personne ne dit rien. C'est effectivement, ça. On sent. Alors, on voit vraiment la différence entre l'amitié qui se crée en fait entre tous les enfants, parce qu'il y a même l'héroïne est contente en fait de retrouver ses camarades, et tout au long aussi de l'évolution, on sent qu'il y a un malaise, enfin qu'il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à définir parce que trop petite au début, et peu à peu ça s'installe cette histoire. Alors que les parents,
oui,
sont complètement soumis en fait.
Ils sont soumis. La différence justement, où c'est là, moi, c'était important de faire ce livre, même si en effet c'est romancé. La différence, c'est que les adultes, en effet, malheureusement, ils ont été mis sous emprise, mais ils ont adhéré à un moment donné. Ils ont quand même fait une première démarche d'adhérer.
Oui.
Les enfants, donc tous les enfants qui sont dedans, qui sont nés dedans en fait, du coup, ils n'ont pas adhéré. On suit le mouvement.
Oui, bien sûr, on suit les parents.
C'est ça. Et en effet, c'est qu'on est heureux, d'un côté, de retrouver nos copains, et d'une autre manière, tout ce qui se passe dedans est tellement déconnant, hallucinant, entre violence, entre paroles extrêmes.
Il y a humiliation aussi. Enfin,
humiliation,
il y a
tout. Et du coup, c'est cet entre-deux où, en fait, le personnage principal se retrouve un peu coincé. C'est « j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie ». Et en fait, même en discutant à la fin avec tout son groupe d'âge, c'est la même chose en fait.
Oui.
On est coincé Et voilà, on est coincé.
Oui, puis on obéit à ses parents déjà à la base aussi.
Oui, enfin, c'est ça. Après, on grandit, donc normalement, on se rebelle un peu. Mais oui, oui, bon, oui, c'est un peu compliqué de se rebeller là-dedans.
C'est clair, oui, on sent que vos parents ne sont pas d'accord du tout avec votre rébellion. Quoi, oui. Vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez construit, le livre, hein, parce qu'il a une...
Alors, ce livre, je l'ai construit, c'est vraiment sous le regard d'une enfant qui grandit du coup dans une communauté sectaire, qui mélange religion et psychanalyse en plus. Ça fait un bon mélange. Et j'ai fait ça par tranche d'âge, parce que du coup, on voit du coup la protagoniste qui évolue dans sa tête, dans son regard, en fonction de l'âge qu'elle a, des choses qu'elle aperçoit, le monde extérieur, parce qu'elle va quand même à l'école. L'école normale, quoi.
Oui.
Et du coup, c'est pour voir l'évolution vraiment qui part de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, où on se rend bien compte que ça déconne, mais comme je n'avais aucune autre expérience, on va dire, j'avais pas de base de normalité.
D'autres repères.
Voilà,
en fait.
C'est ça, les repères étaient un peu faussés, mais heureusement, il y avait quand même un extérieur, mais très léger, quoi.
Pourquoi avoir choisi le roman pour raconter votre histoire plutôt qu'une autobiographie originale? Est-ce pour prendre une certaine distance finalement avec les événements vécus?
Alors je pense que c'était pas forcément pour prendre une distance, c'est la période où j'ai eu besoin de l'écrire, c'était vraiment pour expliquer, dénoncer, et en fait j'avais encore ma famille qui était dedans, et je voulais pas avoir de problème non plus. Et c'est aussi par respect, justement, pour ma famille, qui, malgré tout, ça reste ma famille. Et je ne pouvais pas nommer sans prendre de risques, en fait. Mais cette communauté que je parle dans la Caristique Lac existe bien et s'appelle la famille de Nazareth. Et maintenant, je n'ai plus du tout peur de le dire.
Et qui est en Essonne, hein, vous nous disiez.
Justement. C'est en Essonne et en Normandie. Ouais.
Ah, et en Normandie également.
Oui, et aussi à Nancy. Enfin, il y a plein...
Plein de ramifications,
voilà,
en fait.
C'est ça.
Super. Super.
Alors, et combien de temps cela vous a-t-il pris pour l'écrire? Et surtout, comment avez-vous trouvé la force de l'écrire?
Vraiment, quand je l'ai écrit, c'était par rapport à tous les enfants qui étaient encore dedans. Et moi, je ne pouvais pas me dire, j'en suis sortie sans dire ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai eu un besoin de l'écrire, et je l'ai écrit en 2 mois. Enfin, je l'ai écrit d'une traite.
Mais il y a eu un déclencheur par rapport à ça?
C'est les années, c'est de voir, c'est mes enfants aussi, je pense.
Ah oui.
J'ai 3 enfants et ça fait revivre des choses, mine de rien. Et c'était pour moi impensable de ne pas en parler. Hein. Et comme si pour continuer, il fallait que j'en parle, quoi.
Alors, mais est-ce qu'on a vraiment conscience de l'emprise? En fait, comment est-ce qu'on peut reconnaître une situation d'emprise? Est-ce qu'on la reconnaît même d'ailleurs de prime abord? Et comment évolue-t-elle?
Alors, l'emprise, dans ce qui est dit, je suis pas experte, hein, mais c'est quand on commence à pouvoir faire ses propres choix pour nous-mêmes. Même si bien sûr on a toujours besoin un peu de la vie des gens, mais à partir du moment où notre esprit critique est coupé, qu'on commence à être coupé de notre famille, qu'on fait vraiment en fonction d'une personne ou d'un groupe, et c'est, voilà, on perd notre liberté, en fait. Et du coup, par rapport à mon personnage, du coup un peu moi-même, hein, il a fallu que j'apprenne tout cet esprit critique. Je l'ai appris très tard, en fait. Il a fallu que je déconstruise pour continuer encore maintenant à reconstruire pour moi, en fait.
Oui, parce qu'on sent bien que votre personnage aussi, il est sous le... Enfin, il obéit, parce que, en plus, quand vous êtes enfant, on ne peut pas désobéir, sinon, alors, d'autant plus, là, il se faisait vraiment d'une violence extrême pour vous punir, enfin, punir chaque enfant. Vous disiez même que vous étiez content que cette fois-ci ça tombe pas sur vous.
Oui, en fait. C'est ça. On était tous à espérer que ça tombe pas sur vous.
Oui, c'est ça. Mais donc vous aviez conscience de cette emprise par rapport à vous, ou c'est quelque chose que vous observiez avec un peu de recul sur vos parents plus, en spectatrice, si je puis dire, ou alors est-ce que vous avez vraiment eu ce sentiment d'être soumise à quelque chose dont vous avez réussi à sortir?
J'ai toujours su qu'il y a quelque chose qui clochait, mais sans comprendre encore à l'époque, au fur et à mesure.
Sans mettre des mots dessus.
Sans mettre de mots que c'était de l'emprise, je ne comprenais pas. C'était ma vie entière, c'était normal. C'était...
Bien sûr.
Mais par contre, j'ai toujours, vu que ma famille ou les autres personnes du groupe étaient complètement sous,
oui, comme
sous la coupe.
Oui. Mmh. Oui, c'est ça.
Ça, oui, mais est-ce que je m'en suis réellement rendu compte tout de suite? Je ne sais pas. Par contre, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas.
Oui.
Mais ça, je pense qu'on est beaucoup. On savait que c'était déconnant, mais on était coincés, quoi.
Oui, c'est ça qui est fou. Hein. C'est... Mmh. Le problème de l'emprise, c'est terrible, ça. Même si on a une prise de conscience, on a du mal à...
Bah, c'est ça.
Détaché, quoi.
Et puis, comme je dis, c'est qu'on n'a pas de référence, on n'a pas d'autres références. Nous, en ayant un an, j'avais un an, j'avais aucune autre référence, en fait.
C'est clair.
Bon, pour vous, c'était quelque chose de naturel, finalement, puisque vous n'aviez connu que ça.
C'est ça.
Oui, depuis votre naissance. Et alors, nous suivons Ambre à différentes périodes de sa vie. Dans son parcours, pour moi, c'est un véritable témoignage, même un exemple et une leçon de courage et de résilience. Parce qu'on la voit débuter toute petite et finalement elle arrive à se reconstruire, à avoir une famille et des enfants. Comment est-ce qu'on peut sortir d'une situation d'emprise telle que décrite par votre livre? Mais surtout, est-ce qu'on peut vraiment en sortir? On garde des séquelles? Forcément.
Je pense qu'on garde des séquelles, oui.
Oui.
Après, on peut aussi s'en sortir.
D'accord. Voilà.
Le pas qui m'a vraiment fait sortir de tout ça, c'est la naissance de ma fille. Justement, c'est là, j'ai dit là, non, ça, elle vivra pas ça. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'en extirper. Mais il faut encore des années derrière pour comprendre.
Alors moi, je me suis demandé comment et par qui est-ce qu'on peut se faire accompagner dans ces cas-là pour sortir d'une telle épreuve et comment aider les personnes dans cette situation aussi?
Alors, il y a des associations et dans un premier temps, justement, je me suis retrouvée vraiment seule parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. On est un peu perdu et on est très seule. J'ai écrit mon livre et après mon livre, c'est là où j'ai réussi à prendre contact avec une association, avec plusieurs. Il y en a plusieurs qui existent. Il y a le CAFES qui se trouve à Lille. Il y a l'ADFI. Ça, c'est une association en région parisienne. C'est des associations vraiment importantes. Et puis aussi, quand on a des doutes sur un groupe, sur une personne, il y a ce qu'on appelle la MIVILUDE qui prend connaissance de ce qu'on peut apporter et qui va dire de faire attention à tel ou tel groupe.
D'accord.
Il existe plein de choses. Faut oser y aller. Et les associations accueillent toujours vraiment bien.
D'accord.
Alors, à la fin de votre roman, vous parlez d'un groupe de copains, en fait. Et vous avez une prise de conscience commune. Enfin, vous en avez parlé, en fait, entre vous. Ça a été le cas dans la réalité aussi, ça, grâce où vous êtes soutenus.
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on s'est soutenus, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on est arrivé à en parler en étant tous adultes.
Oui.
Parce qu'on n'avait pas le droit de dire nos doutes, même quand on était jeunes, sur telle ou telle situation, c'était pas possible. Et là, on a réussi à en parler. On n'était pas forcément tous au même point, au même chemin, notre déconstruction de tout ça, mais on était tous d'accord que c'était déconnant. Et je pense que ça a permis de nous faire avancer, mais vraiment, on n'en est pas tous au même point, même encore maintenant.
Ah oui, il y en a qui ne s'en sont pas vraiment sortis encore.
Il y a de tout. Et puis là, maintenant que l'affaire est partie en justice aussi, ça complexifie la chose, quoi.
Et c'était il y a combien de temps, à peu près, enfin, dans le temps?
Qu'on s'est tous retrouvés?
Oui, non, enfin, entre le moment où vous êtes partis et qu'il y a eu ce procès, là, depuis combien de temps que ça dure, cette affaire la prise?
Ça fait pas longtemps. Le fondateur de cette communauté qui s'appelle Daniel Blanchard a été mis en garde à vue, il a eu un an de prison. Et là, il est sous bracelet électronique. Et l'affaire est
en cours.
Est en cours.
Oui.
Avec deux femmes aussi, ses bras droits. Donc voilà, l'affaire continue. Je suis partie civile, du coup, je fais attention à ce que je dis aussi.
Vous êtes plusieurs parties civiles?
On est plusieurs parties civiles.
D'accord. Oui. Et vos parents, par rapport à ça, comment ils sont aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à en parler? De votre envie de partir?
Ça a été dur de parler de mon envie de partir parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais au fur et à mesure là, des années et des derniers événements, toute ma famille en est partie.
Oui, parce que vous parlez de vos grands-parents aussi.
Mes grands-parents, ils n'en ont jamais fait partie.
Justement, qui étaient inquiets. Et aujourd'hui, ils vivent bien, vos parents, enfin bien moralement. Enfin, je veux dire, ça n'a pas coupé vos rapports, je veux dire.
Il y a des incompréhensions, mais malgré tout.
Il y a encore des contacts quand même.
Oui, bien sûr.
Et quel message souhaitez-vous qu'on retienne de votre livre, alors?
C'est ce que je dis depuis le départ, c'est vraiment, dans tout ça, c'est des vies d'enfants gâchées, et c'est vraiment l'enfance qu'il faut protéger, en fait.
Alors moi, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'émotion. Je trouve qu'au départ, on commençait beaucoup de légèreté, mais vous arrivez à l'écrire avec de la douceur, mais avec une certaine force. Et lorsqu'on vous voit, lorsqu'on vous entend, vous représentez vraiment votre écriture dans le sens où on sent l'envie de se battre, l'envie d'une résilience. Mais voilà, c'est tout en douceur. J'ai l'impression que vous acceptez ce qui est arrivé dans le but de le transformer en quelque chose de bien, finalement, pour votre vie et pour la vie des autres aussi.
Je pense que j'ai eu besoin, c'est un tout, oui, je pense que j'ai eu besoin de le faire pour en effet les autres, mais finalement c'était peut-être pour me réparer moi aussi en même temps.
Aussi.
Vous a aidé de l'écrire ce livre, oui, ça vous a fait du bien aussi, enfin, ça vous a aidé à sortir de ça.
Oui, ouais, je pense que ça m'a fait du bien, oui. Et puis ça a eu l'air de faire du bien à d'autres. Donc ça a permis des... Quand on est dans des doutes, c'est plein de petites graines, plein de petits déclics qu'il faut, et un déclic plus un déclic, bah, ça fait que les gens peuvent s'en sortir, ou pas, hein. Et apparemment, ce livre et la vidéo par la suite que j'ai faite en a aidé certains. De la même manière que moi, c'est grâce à des vidéos et des lectures que j'ai aussi pu me mettre à raisonner,
oui,
et à comprendre.
Oui, c'est ça. Et par rapport à votre fille, vous allez lui expliquer vous, enfin, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est peut-être encore jeune.
Ils connaissent un peu l'histoire, oui, de mes enfants, voilà, à leur hauteur d'âge.
Oui, c'est ouais, ça. Oui, d'accord. Justement, pour les mettre en garde, notamment, j'imagine.
Oui, après, bah, on verra bien.
On fait ce qu'on peut, oui, bien sûr. Hein, ça, c'est le rôle de chaque parent.
Ça, effectivement. Et comptez-vous animer, par exemple, des campagnes de sensibilisation sur le sujet de l'emprise? C'est important. C'est un sujet, finalement, tabou, qu'on connaît de loin, quand on ne l'a pas vécu. Mais finalement, tout le monde est susceptible de rentrer sous emprise.
Ah oui, oui, il n'y a pas de personnes type, hein, vraiment tout le monde peut s'y retrouver. j'ai fait des petites conférences, j'ai fait des petites choses. Si en ce moment je cherche pas plus que ça, si ça vient à moi, je peux prendre. Mais
d'accord.
Oui, alors donc on évoquait tout à l'heure le fait que vous écriviez de vos romans autour de votre expérience personnelle. Quelque temps après, vous avez écrit donc un livre aussi que je trouve extrêmement touchant aussi, qui s'appelle Quelques semaines tout au plus, qui relate l'enfance de votre grand-père. C'est un roman également. Comment avez-vous fait? Il vous a raconté des histoires dans votre vie. Comment ça s'est passé? Et déjà, comment avez-vous eu envie d'écrire sur cette histoire-là?
Et c'est un grand-père qui a toujours été un très très bon orateur et qui nous racontait des histoires. Et je pense que c'est peut-être grâce à lui que j'ai aimé écouter des histoires, aimé lire et après aimé écrire, parce qu'il était vraiment très passionné. Enfin, il était vraiment passionnant. Il faisait des conférences justement autour des plantes. Enfin voilà, il travaillait au jardin des plantes et apparemment c'était un très bon conférencier. Et ça s'est retrouvé en tant que grand-père. Et du coup, il avait commencé à nous faire des ébauches un peu sur sa vie au fur et à mesure qu'on grandissait et de l'âge qu'on avait avec mon frère et ma sœur. Et un jour, il s'est mis à écrire, en fait, comme des mémoires.
D'accord.
Et du coup, moi, je me suis basée là-dessus pour avoir un fil conducteur. Mais voilà, je me suis basée sur des histoires, des anecdotes de vie réelle. Après, ça reste romancé pour pouvoir en créer toute une histoire. Et j'ai pu lui demander régulièrement, je l'ai appelé des fois pour lui demander des descriptions.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de détails, effectivement, beaucoup. Enfin, alors c'est très visuel aussi, vos livres, hein, donc on arrive bien à... Enfin, moi, j'étais complètement dans l'ambiance et dans le décor aussi, et enfin, je sais pas, parce que je trouve que vos romans sont sensibles, donc c'est bien retranscrit, on est vraiment dans l'histoire tout de suite. Et en même temps, je me disais que c'était quand même vraiment très, très détaillé, comme si vous l'aviez vécu vous-même. Donc, c'était...
À certains points, il a pu vraiment m'expliquer, ouais, comment ça se passait. Voilà, dans les années 30, comment était l'orphelinat dans lequel il a grandi. Après, il a travaillé chez les maraîchers pendant la guerre, les cloches qui explosent dans Vers. Enfin, c'est des choses que je n'aurais pas pu savoir sans qu'il m'explique le fonctionnement de tout ça. Et c'était passionnant et je pense que c'est l'un des livres qui m'a demandé le plus de travail, alors que je pensais que ce serait, oui, plus simple.
Mais ça ne m'étonne pas.
J'avais plus de bagages, j'avais plus de
matière première.
Oui, ouais, j'avais beaucoup de matière première et pourtant, il m'a demandé beaucoup de travail comparé au Ricochet où c'est une histoire vraiment contemporaine, inventée de tout bloc. Voilà.
D'accord. Ouais, oui.
Vraiment différent. L'écriture ne se passe pas pareil. Quoi.
Oui. Et justement, vous le consultiez au fur et à mesure que vous écriviez, ou vous avez pris ses carnets et basé là-dessus, et après vous lui avez soumis...
Je me suis basée en effet sur ses écrits.
Oui.
Et moi, j'avais fait ma trame. Je fais partie des écrivains qui ont besoin d'une trame un peu pour savoir où on va, même si ça bouge souvent. Et après, quand j'avais des doutes ou que ça me convenait pas, je l'appelais. Voilà. Et puis quand le livre est sorti, il a eu le temps. C'est ça qui est chouette, il a eu le temps de le lire.
Justement, moi, ça me permet de vous poser une question sur votre rituel d'écriture. Comment est-ce que vous écrivez ? Comment est-ce que vous vous organisez ?
Justement, j'ai besoin d'être assez, je suis assez rigoureuse, assez carrée. Mais je remarque qu'en fonction des livres et des moments, je ne fonctionne pas forcément pareil. Mais j'ai besoin d'un cadre, d'avoir un peu les scènes de mon chapitre pour savoir où je vais dans l'écriture. Mais généralement, après, ça part parce que notre imagination, il se met à faire d'autres choses que ce qu'on avait prévu. Mais j'ai besoin d'une base parce que sinon, c'est plus cadré et je ne sais plus où j'en suis. Après, il y a des périodes où j'écris plus que d'autres. Et quand on arrête d'écrire pendant 6 mois, on s'y perd même dans ses personnages, quoi.
Ça fait.
Vous avez mis combien de temps à l'écrire d'ailleurs ces livres ?
J'ai mis quelques semaines tout au plus, j'ai mis 1 an.
Ah, bah, ce qui est quand même pas très long. Enfin, c'est,
oui, c'est, quoi, c'est, quand, oui, c'est, cohérent, c'est entre la recherche, le temps. Parce que quand on parle de combien de temps on met à écrire un livre, il y a aussi tellement de temps qui se passe dans notre tête avant de se passer au passage de l'écriture. C'est déjà un énorme travail, on a l'impression qu'on fait rien. Et des fois, je me dis, ah, j'écris pas, je fais rien en ce moment. Et en fait, tout se passe dans la tête. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et après, il faut se mettre devant son cahier ou son ordi et se dire, bon, on y va, parce que la muse ne vient pas toute seule.
Tout à fait. Est-ce que vous avez eu des périodes de doute, de pages blanches, par exemple ?
Ah oui, moi, je suis partie des autrices qui ont des doutes en se disant, un jour, je suis plutôt fière de moi, et le lendemain, je lis mon paragraphe et je fais, ouais, non. Voilà, et puis j'ai écrit vraiment autour, en effet, des liens familiaux, mais chaque histoire est quand même différente. Là, je suis allée vers le livre pour enfants aussi, le dernier, mais c'est aussi des liens familiaux, mon livre pour enfants. Et en fait, voilà, j'ai pas d'écriture type, je vais là où j'ai envie, en fait. Mais bon, voilà.
Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur votre livre, parce que cette histoire, elle est quand même... s'il s'appelle « Quelques semaines tout au plus », c'est parce que c'est l'histoire justement d'un enfant que sa mère emmène à l'orphelinat. Et elle lui dit, mais t'inquiète pas, c'est parce qu'en ce moment, j'ai besoin de me reposer et je reviendrai dans quelques semaines tout au plus. Enfin, c'est comme ça que je l'entends.
Oui, c'est ça.
Et en fait, il se trouve qu'il passe toute son enfance jusqu'à ses 20 ans, 21
c'est
ans,
ça, c'est ça,
jusqu'à sa majorité, en fait. Et là, il se construit une amitié extrêmement forte avec deux autres camarades qui se sont suivis tout le temps. Enfin, même si après avoir fini leurs études, ils ont... leur certificat d'études,
oui,
je crois.
Oui, c'est ça, certificat d'études à l'époque, oui.
Ils se séparent et ils se retrouvent après. Enfin, ça... Mais c'est terrible, cette histoire de cette maman qu'il ne récupère jamais, finalement.
Bah, c'est il y croit, mais en fait, ça n'arrivera jamais.
C'est ça, oui, oui. Et puis, parce que quand même, il y a des vrais orphelins. Ses amis sont des vrais orphelins. C'est vraiment au sens littéral du terme où ils n'ont pas de parents. Mais lui, il a encore sa mère.
C'est ça. Il est dans un orphelinat, mais lui, il a sa mère.
Il a sa mère. Et sa mère qu'il voit tous les dimanches, et sa mère qu'il aime toujours autant, et qui refait sa vie, en plus, avec un homme qui a des enfants.
Oui.
Alors, je ne sais pas si dans la réalité, il s'entendait aussi bien avec les enfants de son beau-père, mais il y a une belle amitié qui se
transmet.
Plus qu'une amitié, d'ailleurs, qui se transmet après. Mais...
Si je l'ai retranscrit comme ça, c'est qu'en effet, il y avait vraiment quelque chose entre eux, ouais.
C'est fou, cette histoire, quand même, hein, quand on y pense. C'est
mais
terrible,
du coup, c'est une histoire de vie tellement hallucinante, je me dis, de vivre ça, déjà, en plus, dans les années 30. Et puis, c'est une époque, même moi, je dis, pour connaître comment ça a fonctionné dans ces années-là.
Oui.
Comment les gens vivaient. Je trouve ça passionnant, en fait.
Ah oui, moi aussi. Moi, j'ai vraiment...
Il ne faut pas oublier, quoi.
Oui, exactement. Exactement, ça sert de témoignage.
Ouais, c'est
effectivement,
c'est pratiquement un document historique aussi.
Ah, mais oui. Mais avec beaucoup de, il y a beaucoup d'amitié là. Enfin, c'est très très chouette l'amitié.
Oui, parce que
ces enfants.
Je me suis basée autour aussi des événements historiques, mais c'est un tout quoi. C'est dans une histoire avec un grand H. C'est dans l'histoire avec un grand H, mais c'est une histoire de vie là-dedans quoi.
Et quelle a été la réaction de votre grand-père quand il a lu votre livre?
Alors,
il a eu la chance de le lire. Bon,
Il prenait la loupe tous les jours pour lire un chapitre. Hein. Et du coup, il m'appelait, il disait « Ah oui, c'est bien ». Puis après, au fur et à mesure, des fois, c'était « C'est romancé quand même hein. ». Oui, je t'ai prévenu, papy, c'est romancé. Mais non, je crois qu'il a été fier et je suis vraiment...
Fier également, j'imagine.
Ouais, vous-même, oui, surtout que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu d'écrire. Et en fait, c'est ma famille qui m'a dit « Mais c'est le moment de l'écrire parce qu'il est encore en vie ». Et c'est vrai que c'était le moment de m'y mettre pour pouvoir... le contacter si besoin, le voir.
Oui, pour être le plus proche,
c'est
j'imagine,
ça.
De la réalité.
Et je pense que j'ai bien fait de les écouter. Parce que je venais d'écrire La caresse qui claque, qui était quand même pas facile. Et finalement, ce livre-là, que quelques semaines tout au plus, que je trouve vraiment, je pense que c'est un de mes préférés, il n'est pas si facile que ça non plus, même si en effet, il y a de la douceur. Mmh. Et j'avais pas forcément envie de me relancer dans un truc aussi. Finalement, j'ai bien fait, je crois.
Oui. Donc c'est un projet que vous aviez en tête depuis un petit moment.
Ah oui, je voulais le faire depuis un moment, mais il faut se lancer, quoi. Oui.
Mais est-ce que c'est facile d'écrire sur la famille, les liens familiaux, dans le sens où vous arrivez à vous détacher un peu pour garder votre objectivité ? Est-ce que vous n'êtes pas plus touché que quelqu'un qui écrirait juste de la fiction pure ?
Bah, j'ai aussi écrit que vraiment de la fiction pure. Hein.
D'accord.
Voilà. Comme je dis, je me base, mais je pense que tous les auteurs se basent un peu sur leur quotidien, leur vie.
Oui, je pense aussi.
Voilà. Ouais. Après, peut-être que pour certains personnages, ça m'a amené quelque chose de différent, peut-être. Je sais pas.
Alors donc, 2-3 romans, donc, et aujourd'hui, un livre pour enfants.
Oui.
Aussi, Tuk Tuk.
Oui.
C'est ça. Que vous avez écrit il y a peu de temps, je crois. Hein. Il est assez récent.
Il y a deux ans.
Oui, d'accord. Pourquoi un livre pour enfants ? Parce que là, pour le coup, c'est très différent.
Complètement. Ouais. En fait, je suis romancière, mais je suis aussi intervenante musicale.
Oui.
Et du coup, je travaille beaucoup auprès des enfants pour faire de la musique. Et cette année-là, en fait, c'est un pur hasard. J'ai pioché dans une malle à la MJC où je travaille, un instrument brinque-ballant. Et qui ressemblait à une branche. Je lui ai rajouté des yeux et j'en ai créé une histoire pour mes élèves. De fil en aiguille, j'ai contacté un illustrateur qui a été partant pour le projet.
Oui, j'allais vous demander effectivement avec qui vous aviez travaillé.
Avec un illustrateur, un graphiste vraiment très très bon, Eric Frégé. Il est vraiment doué. Et nos univers ont matché parce que le livre pour enfants, l'écriture, est très importante. Mais la première chose que le lecteur va voir, c'est l'image. Mmh. Donc il faut vraiment une image qui donne envie. Et voilà, et du coup on s'est lancé dans ce projet un peu fou parce qu'on l'a mené en 3 ou 4 mois, je crois, quelque chose comme ça.
Oui.
Ah ouais, non, c'était je sais pas si je saurais le refaire. Mais c'était vraiment une chouette expérience. J'aimerais bien en faire un deuxième, mais voilà, il faut le temps, il faut l'argent, il faut voilà. Les projets, j'en ai beaucoup.
Oui, le temps, surtout beaucoup. Oui.
C'est ça.
Et comment vous avez construit ce livre, justement ? Vous faisiez un texte et vous lui demandiez un dessin, ou c'est lui qui vous soumettait un dessin ?
En fait, j'ai écrit l'histoire et c'est après que je l'ai contacté.
Ah, l'histoire entière ?
Ouais.
Oui, d'accord.
Ouais, j'avais écrit l'histoire que j'avais fait moi-même avec des photos, avec des images. J'avais créé mon histoire et en fait, je lui ai envoyé et je lui ai dit « Est-ce que ça te tente ?» Et direct, il m'a envoyé une page. Et il me dit « Quelque chose comme ça, ça tirait ?» Et j'ai fait « Ok.
Wow. » Vous êtes bien trouvé.
Voilà,
c'est exactement ça. Vous vouliez. Ouais.
En fait, je lui ai donné la base et je lui ai dit « Mais maintenant, tu fais ce que tu veux aussi. » Et du coup, il a pu s'amuser à créer aussi sa petite touche à lui. Vraiment, il y a mon histoire, mais il y a vraiment sa touche, la touche de l'illustrateur qui est très importante, quoi.
Et vous auriez envie d'en refaire un autre ou
parce que oui, j'aimerais bien en faire d'autres. Après, j'écris des petites comptines, des petites chansons. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça arrivera à créer un autre livre.
Oui, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Hein. Oui, c'est sûr. Oui. Et vous préférez quoi puisque vous avez fait nouvelles, romans, livres pour enfants, vers quoi vous vous retrouvez le plus ?
Je crois que ça dépend vraiment des périodes de vie.
Ah oui.
Parce que le livre pour enfants, je l'ai fait au moment où j'étais vraiment à fond dans mes ateliers musique, où ça m'est venu et j'étais portée par ça. Là, je me lance dans un roman jeunesse et fantastique.
Ah oui.
Oui, voilà.
D'accord.
Donc,
donc là, on est dans l'imaginaire complet.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est ça. Mais ça se trouve, en l'écrivant, je me rendrai compte que ça donnera autre chose. Du coup, en fait,
vous laissez porter, en fait.
Oui, j'ai pas de préférence. Des fois, ça peut être un peu dur parce que je sais pas dans quoi me mettre. Du coup, parce qu'il y en a qui vont être, c'est vraiment la littérature fantastique, c'est la littérature, c'est les thrillers, voilà. Moi, je suis un peu, je ne sais pas.
Mais c'est pas très grave, ça
non,
me
dérange
pas
grave.
En fait, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être dans une case précise.
Vous suivez votre inspiration.
Comme ça vient, oui, non, bien sûr. Ouais. Au niveau de l'édition de vos livres, c'est de l'auto-édition ?
C'est de l'auto-édition. J'avais fait ma première nouvelle, Magali, en édition à compte d'auteur, on appelle ça. Pour moi, c'est une grosse arnaque. Mais disons qu'en auto-édition, on peut faire la même chose. Quand je l'ai sorti, ce livre-là, c'était il y a bien... J'avais 19 ans, hein, donc j'étais un peu jeune. J'étais tellement heureuse d'avoir une possibilité de sortir un livre que je l'ai fait de cette manière-là. Bon, j'étais quand même un peu déçue parce que derrière, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est pas grave, c'était sorti, c'était une première expérience. Et en voulant sortir mon deuxième livre, j'ai regardé les différentes possibilités et l'auto-édition, je me suis dit, mais là, j'ai la main sur tout.
D'accord.
Mais il ne faut pas oublier que même si on a la main sur tout, il faut se faire entourer par des professionnels sur les choses qu'on ne sait pas. Voilà, j'ai beaucoup appris, mais mon premier livre, je me suis rendu compte quand même que j'avais été peut-être un peu rapide, on est pressé. Donc ça m'a beaucoup appris la patience et de s'entourer. Ce n'est pas parce qu'on est en auto-édition qu'on fait tout seul non plus, quoi.
Et les professionnels, vous les trouvez où ? Enfin, quel type de professionnels déjà des...
Alors, bah, déjà l'illustrateur, par exemple, pour le
Tuk Tak. Oui, bien sûr. Voilà. Pour la relecture, vous voulez
dire ? La relecture, oui, c'est ça.
D'accord.
Trouver un correcteur. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les bêta-lecteurs.
Oui.
Donc ça, peut y avoir des... Moi, je sais que je le fais. J'essaye de le faire une fois par an, de lire un livre pour quelqu'un en mettant mon avis. Et comme ça, je me dis, la personne va le faire pour moi. Voilà. Et il ne faut quand même pas oublier qu'à la fin, il faut finir par un professionnel, quoi, même si on... Même s'il y a beaucoup d'entraide entre...
Mais comment vous faites pour trouver ce professionnel?
Sur le réseau, sur les réseaux, par auteur, quand je fais des salons du livre, on se redonne des,
oui.
On redonne des noms. Sur les salons du livre, en fait, c'est ça qui est aussi agréable, c'est qu'un salon du livre, ça peut être long. Il peut y avoir du passage, des fois non.
Oui.
Mais ce qui est très très chouette, c'est de se retrouver entre auteurs et entre autrices. Et on se donne beaucoup de matière, en fait, et ça relance aussi, parce que des fois, on est un peu seul derrière notre ordinateur à écrire et...
C'est très courageux comme aventure, l'auto-édition.
Oui, c'est beaucoup de travail. Et ouais, ouais.
Alors, est-ce que vous avez des réseaux où on peut voir vos travaux? Où est-ce qu'on peut trouver vos livres?
J'ai mon site internet, hein, c'est www.solenguillot.fr. Je suis sur Instagram et Facebook. Maintenant, je suis beaucoup tournée sur mes ateliers musique, mais voilà, c'est par période, comme j'explique. Et pour moi, les deux sont liés, en fait. Mes interventions en éveil musical et l'écriture, pour moi, c'est lié, ça va ensemble. Les deux, c'est une matière d'art. L'un ne va pas sans l'autre dans ce que je suis, en fait.
Et j'allais vous poser la question sur votre actualité. Vous avez quelque chose de prévu, des salons peut-être ?
En salon, là, mon dernier, c'était en décembre. J'en ai pas recalé encore parce que je vais être sur une bibliothèque dans 15 jours à Magny-les-Hameaux. Pour une intervention musicale, et bien sûr, je ramène mes livres quand c'est comme ça. En juin, je tourne sur plusieurs bibliothèques aussi pour l'éveil musical, et à chaque fois, j'apporte mes livres. Mais d'événements vraiment ciblés pour mes romans, non, là, j'en ai pas.
D'accord, donc je rappelle donc le titre de toute votre œuvre, en fait, parce que donc, la nouvelle s'appelle Magali, le premier roman, Les Ricochets, le second, La caresse qui claque, et votre coup de cœur, votre petit dernier, qui s'appelle Quelques semaines tout au plus. Donc j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de vous recevoir de nouveau pour le quatrième, qui est en train d'être écrit. Et on a une petite tradition, nous, dans Passion Livre, c'est de vous demander un petit coup de cœur musical. Et quand je vous ai posé cette question, en off, vous m'avez dit tout de suite, Wellerman de Nathan Evans,
oui.
C'est ça? Alors pourquoi cette musique?
Je trouve que c'est une chanson qui est entraînante, et justement, elle correspond bien à mon côté et écriture et mon côté musical. C'est une chanson que j'utilise beaucoup dans mes séances d'éveil musical. Ça marche très bien auprès des enfants et des parents.
Oui.
Je trouve que ça fait un lien et ça booste. C'est une chanson qui est vraiment entraînante et qui est super chouette.
D'accord. Et ben, avant d'écouter ce titre, on voulait vous remercier, Solène, d'être venue à notre micro. Merci beaucoup, hein, parce que ces témoignages étaient vraiment, enfin, vos livres sont vraiment passionnants et très touchants. Enfin, beaucoup de sensibilité, très bien écrit. Enfin, c'est très agréable à lire. Merci beaucoup. Et on termine en musique, donc en écoutant Wellerman de Nathan Evans. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Hands to the side, harp and then fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line.
was cut. No whale was freed. The captain's mane was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The whaleman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.